Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 4 de dezembro, na vossa companhia até às 14 horas, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. O principal destaque irá, evidentemente, para as comunidades portuguesas, através do Orçamento Geral do Estado para 2023, que medidas para as comunidades portuguesas no estrangeiro. Como a boa notícia, o STCDE retirou o pré-aviso de greve nos consulados, que deveria acabar amanhã. Teremos o deputado do PS pelo ciclo da Europa, Paulo Pisco, em direto dentro de alguns instantes. Falaremos igualmente do encerramento de 7 liceus parisienses no próximo ano letivo, nem mais nem menos. E vamos ficar na região parisiense com os transportes. Aumento do preço do passe Navigo, redução da oferta dos transportes no metro, autocarros e comboios e privatização em perspectiva. Depois falaremos da situação difícil no norte de Moçambique. Um grupo armado atacou civis e um membro da organização não-governamental Solidarité Internacional foi assassinado. Sem esquecer a apresentação de duas bandas desenhadas no Consulado-Geral de Portugal em Paris. Será na quinta-feira, dia 8 de dezembro, Maria Salazar, de Robin Walter, e Les Portugais, de Olivier Afonso. E fazeremos no final da emissão o balanço da temporada cruzada da Defensa Portugal, a nível da literatura, e teremos connosco a cofundadora das edições Chontenha, Anne Lima. Mas, para já, Paulo Pisco, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, é sempre uma grande satisfação poder estar convosco e com todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, Paulo Pisco, uma boa notícia para a comunidade portuguesa, mas aparentemente também para os funcionários dos consulados e das missões diplomáticas portuguesas. O governo responde e assume compromissos, STCDE suspende a greve. Será que foi necessário que o STCDE tivesse entregue um pré-aviso da greve para que o governo, enfim, pusesse preto, as coisas preto no branco?
Não creio, porque o que era preciso era efetivamente que houvesse alguma tranquilidade e alguma calma, porque havia um compromisso da parte do governo de ir ao encontro das expectativas e das reivindicações do Sindicato dos Funcionários Consulares. Uhum. Eu acompanhei ao longo de todo este processo as negociações, eu sabia muito bem o que estava a passar e estava absolutamente convencido que a partir do momento que tinha havido um compromisso que foi assumido nas negociações entre o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades e o sindicato, e a direção do sindicato, que esse compromisso obviamente iria chegar a bom porto. Havia alguns aspectos importantes que estavam em cima da mesa, como a revisão da tabela salarial, a aplicação do novo mecanismo de correção cambial, também muito importante para os funcionários que exercem funções em países que estão com inflações bastante elevadas ou quando os câmbios relativamente ao euro variam muito, eram aspectos importantes, também como as questões relacionadas com, por exemplo, os seguros de saúde. Todos estes aspectos tinham sido objeto de um compromisso por parte do governo e, na medida em que decorriam negociações, não houve condições para que esses compromissos fossem especificamente incluídos no orçamento do Estado. Mas havia o compromisso de que não faltariam os recursos financeiros necessários para satisfazer essas reivindicações e que são verdadeiramente necessárias para satisfazer os funcionários consulares.
Paulo Pisco, peço desculpa, mas aparentemente o ministro estava de acordo, quero-me referir a João Cravinho. O problema foi novamente a questão das finanças. Estava-se à espera do sinal verde das finanças para resolver esta situação, tanto mais que no que diz respeito, por exemplo, aos centros culturais do Instituto de Camões. Há tabelas salariais que foram feitas, as coisas estão negociadas, estão tudo, e há mais de dois anos que se está à espera que isso seja posto na prática. Portanto, o que é que se passa? Quem é que dirige a política do país? É o Primeiro-Ministro? É o programa do PS? Ou é o Ministro das Finanças?
Havia todos esses aspectos que efetivamente careciam de resposta, mas era preciso, porque estamos a fazer uma negociação em pacote, há um conjunto de questões muito específicas que têm a ver com as a natureza salarial e os volumes salariais dos funcionários consulares, que era preciso pôr tudo isso em conjunto, de forma a que pudessem também ser feitas essas contas. Por isso é que houve negociações, por isso é que foi preciso também identificar precisamente todos os aspectos financeiros que estavam envolvidos nesse tipo de negociações, até porque nós estamos num contexto de grande variação inflacionista e que tem conduzido a que haja inflações absolutamente gigantescas, estapafúrdias, diria mesmo, em alguns dos países. E, portanto, tudo isto exigia a situação também dos funcionários no Brasil. Portanto, havia um conjunto de questões que era preciso calcular com precisão para ver quanto é que, em termos orçamentais, isto iria orçar. Portanto, é daí que, obviamente, que houve também a necessidade de fazer essas negociações, e que demorou mais algum tempo. Agora, é verdade que havia questões que estavam negociadas há algum tempo, como é a questão associada aos trabalhadores dos centros culturais do Instituto Camões, e que obviamente que era necessário que elas pudessem ser postas em prática.
O que vai ser...
Quer dizer, nós às vezes esquecemos que houve algumas circunstâncias que não ajudaram muito.
Evidentemente que agora, bom, vamos ver consigo, igualmente com este TCDE, como é que as coisas vão ser postas na prática, mas eu gostaria que falássemos também do ensino de português. Antes disso, é o seguinte: o ministro Costa Sanches anunciou que se vai terminar o ano 2023 com mais 249 efetivos do que comparativamente ao final deste 2022, nomeadamente 222 para os serviços periféricos e externos, muito em particular para os consulados. Cito o ministro dos Negócios Estrangeiros. Ora, o STCDE diz que são necessários no mínimo 500 novos funcionários, tendo em conta já aqueles que faltam e também que há muitos funcionários que se vão aposentar, entretanto.
Sim, isso são questões absolutamente determinantes que é necessário levar em consideração. É importante, por um lado, dotar os postos consulares dos recursos humanos que são necessários para o seu cabal funcionamento, e existe obviamente esse compromisso da parte do governo. Eu também tenho acompanhado e também tenho feito procurado explicar a importância que as coisas vão nesse sentido, portanto, para que haja uma maior atenção relativamente à questão dos recursos humanos, e tendo precisamente em atenção também essa característica muito particular que tem a ver com o facto de haver muitos funcionários que estão em idade de reforma e que é preciso antecipadamente prever a sua saída, de forma a que não fiquem estes buracos relativamente ao número de funcionários que prestam serviço. Portanto, este é um dos aspectos, mas é preciso não esquecer que também está em curso um outro aspecto que é fundamental e que tem a ver com a modernização dos serviços consulares, em termos de que se está a fazer um trabalho de fundo para que haja uma desmaterialização tão grande quanto possível de tudo o que tem a ver com os serviços que são prestados a nível consular. Eu recordo aqui que, por exemplo, o consulado virtual, que agora recebeu este nome, que tem a ver com toda a implementação do novo modelo de gestão consular, foi antecipado para o próximo ano, a sua conclusão.
Dia 10 de junho, dias 10 de junho de 2023, exatamente. Foi a promessa do Secretário de Estado das Comunidades.
Exatamente. São questões que implicam questões técnicas que têm a sua complexidade, mas houve esse compromisso que foi assumido e nós temos que pôr em equação estas duas dimensões. Por um lado, a necessidade, que é uma necessidade, na minha opinião, absoluta, de dotar muitos postos consulares dos recursos humanos que são necessários, e por outro lado, progredir com a implementação do novo modelo de gestão consular para a concretização e antecipação do consulado virtual, que vai retirar também dos postos consulares a muitos dos nossos compatriotas que precisam tratar dos seus documentos, e obviamente também implicará um alívio para o trabalho dos funcionários consulares. São dois aspectos muito importantes que não podem ser separados um do outro e que foi, de facto, também uma das coisas que nunca deixou de estar presente nas negociações que houve com o sindicato.
Sim.
É preciso também levar isto em consideração, que são aspectos importantes, porque a sobrecarga de trabalho também traz muitas perturbações no funcionamento e no atendimento dos postos consulares, porque leva a baixas,
Paulo Pisco, com efeito, e o agendamento aqui em Paris até espera 5 meses, digo bem 5 meses, para fazer um passaporte, um cartão de cidadão. Ora, relativamente ao ensino de português, houve o debate no Parlamento, isto à volta da petição português para todos. E fez uma intervenção, entre outras, eu fui buscar uma frase. A língua portuguesa começou a deixar de ser vista como uma língua de imigração para ocupar o lugar que merece por direito próprio. Se pegamos no caso concreto da França, o português está a desaparecer, queiramos ou não. Houve aqui a reforma do chamado BAC, do liceu e por aí fora, e o português ficou restrito, mas restrito, só aparece, e por uma exceção e por uma delegação, aqui na região parisiense, igualmente na Guiana. Guiana francesa, que tem fronteira com o Brasil. De maneira que, bom, finalmente o português aqui não é uma língua universal, como aquilo que o Paulo Pisco quer que seja.
Repare, é preciso ver que as línguas, as principais línguas globais, são línguas que entram também numa competição. É verdade que, relativamente, nós não estamos a falar, quando falamos da língua portuguesa enquanto língua de imigração ou enquanto língua de...
materna, ou língua materna.
E isso é outra questão que também é preciso analisar de uma forma cuidada, mas quando nós pomos esta dicotomia entre a língua de imigração e a língua de projeção global, a língua portuguesa, nós temos que ver uma diferença de atitude e uma diferença de percepção. O português, a língua portuguesa, só começou a ganhar uma projeção e uma importância e uma atenção essencialmente a partir do início deste século. E, no entanto, a língua portuguesa sempre teve esta enorme potencialidade. O facto de a língua portuguesa ser vista como uma língua de imigração, portanto, eu estou a falar numa perspectiva nossa, portanto, de dentro de Portugal para o exterior, isso era algo que lhe retirava essa capacidade de projeção global. Porque tem as suas limitações, porque não é vista como uma língua atrativa, e, portanto, as pessoas não escolhem a língua portuguesa. A partir do momento que começou a haver uma evolução, nós temos que ver tudo no conjunto. Temos que ver, por um lado, o ensino do português no estrangeiro enquanto um dos pilares essenciais para a criação de falantes e para a projeção da língua e com todo o seu potencial para as relações bilaterais, como língua de emprego, como língua académica, e tem que ser considerado também o ensino do português no estrangeiro. Portanto, o ensino, aquilo que nós chamamos de ensino paralelo. Mas, por outro lado, temos todas as outras dimensões da língua portuguesa que são complementares desta dimensão e que têm a ver com a língua portuguesa como língua de trabalho em mais de 30 de organizações internacionais, portanto é isto que lhe dá uma projeção global, como uma língua que é falada em todos os continentes, que é a quarta língua mais falada no mundo, que é a língua mais falada no Hemisfério Sul, como uma quarta ou quinta língua mais utilizada na internet. E, portanto, nós temos que valorizar a língua portuguesa em todas as suas dimensões.
Paulo Pisco,
e é, portanto, deixe-me só terminar dizendo uma coisa. É óbvio que a diplomacia desempenha um papel verdadeiramente essencial para a capacidade de afirmação da língua. Em França, tem, obviamente, a comunidade portuguesa é essencial para a promoção da língua e para a difusão da língua, e há um trabalho que é também muito importante, porque toda a gente sabe que as línguas são extremamente competitivas em França, por causa dos compromissos da França, por exemplo, que é o mais conhecido com a Alemanha, e, portanto, os liceus depois também, as escolas também acabam por ter algumas dificuldades em ter tantas línguas de opção. Mas isso é um trabalho que nós temos estado a fazer em permanência, que o anterior embaixador e que o governo português tem procurado fazer, que foi reconhecida pelo anterior ministro da Educação e que foi reconhecida pelos presidentes da República de França. Portanto, há um trabalho que tem que ser feito para, efetivamente, a língua portuguesa ter a sua relevância também. É um trabalho diplomático, é um trabalho político, e é para esse trabalho que nós temos que estar a lutar em permanência. Há países onde as coisas são mais fáceis de relativamente à língua portuguesa, há outros onde é preciso lutar muito mais. Eu acho que em França é um desses países em que é preciso lutar. Para uhum. que... Exatamente, para que a língua possa ter, de facto, um lugar que merece em termos globais, porque a partir do momento em que a língua portuguesa tem, efetivamente e reconhecidamente, um peso económico acentuado, o que se vê pela quantidade de países que querem ser membros associados, por exemplo, da Cplp, obviamente que há um trabalho que tem que ser feito em permanência, através do politicamente e através da nossa diplomacia. E, portanto, é isto que tem que ser posto em equação quando nós falamos da língua portuguesa, e não afunilar, porque eu julgo que não podemos cair nessa tentação, numa espécie de catolicismo, a língua portuguesa apenas como uma língua materna, cria uma grande dificuldade até para a própria constituição das turmas. A língua materna, ela existirá sempre, mas ela dependerá sempre dos contextos em que ela é ensinada. E que, obviamente, os professores têm sempre um papel fundamental em termos pedagógicos para encaminhar os jovens que aprendem a língua portuguesa no sentido de tirarem o maior proveito das suas aprendizagens e assim poderem dar força também, através dessa forma, à língua portuguesa. E é disto que nós estamos a falar.
Paulo Pisco, mas precisamente para já a questão daqui da França, e não só, é que a língua portuguesa faça parte do currículo dos países onde há pessoas de falantes lusofalantes, como se costuma dizer. Há que haver que em França, por exemplo, o Liceu Internacional, ou em certos sítios, o português foi deixado de lado e agora é o chinês. Porquê? Porque foi o chinês que deu dinheiro. Estamos nisto aqui em França. Agora o que esperamos, e é um pedido talvez que eu faça ao Paulo Pisco, e será, peço-lhe sim ou não, quando é que pensa fazer isso, é que normalmente há uma comissão mista franco-portuguesa sobre estas questões do ensino. Pode interpelar o ministro português da Educação ou o ministro dos Negócios Estrangeiros para que essa reunião se faça o mais rapidamente possível, fazer o ponto da situação ou não?
Claro, repare, a Comissão Mista Franco-Portuguesa, ela reúne regularmente de X em X tempo. Eu não sei, não me recordo quando foi a última reunião, nem sei quando é que será a próxima, mas posso tentar saber isso e posso tentar, obviamente, também falar quer com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer com o Ministro da Educação, no sentido de reforçar, porque esse tem sido sempre o nosso trabalho. Aliás, eu estou absolutamente consciente que tanto o Ministro da Educação como o Ministro dos Negócios Estrangeiros sabem bem da importância que tem esta luta pela afirmação da língua portuguesa. E, portanto, é claro que eu poderei fazer isso, porque é isso que nós fazemos em permanência quando abordamos a questão da língua no Parlamento e na relação com o Governo. É essa capacidade de também em França, e sobretudo em França, porque a dispersão da nossa comunidade é muito grande, a importância das nossas relações bilaterais são muito grandes, porque, claro, eu acho que à partida até nem deveria haver grandes problemas em termos bilaterais, porque a relação entre Portugal e a França é de tal maneira extraordinária, há uma tal compreensão, que houve uma evolução de tal maneira positiva nos últimos tempos no relacionamento entre Portugal e a França, para o que também eu estou absolutamente convencido que tem contribuído o facto de haver cada vez mais franceses que escolhem o nosso país para viver, e tudo isto acaba por trazer uma transformação extraordinariamente positiva que temos que levar em consideração. E politicamente temos de tirar partido disso, como é óbvio.
É evidente, Pedro. Agora, quando se fala dos franceses que procuram Portugal para viverem e para fugirem aos impostos aqui, que as coisas sejam ditas, ainda que o governo português alterou precisamente esse sistema que privilegiava aqueles ditos reformados exilados fiscais, como eu costumo dizer. Paulo Pisco, muito obrigado, e agora vamos aguardar. Vamos aguardar, sobretudo, é para ver, bom, para já o resultado concreto relativamente à situação dos consulados, mas para ver depois como é que vai ser aplicada a política monetária ou financeira do Governo relativamente às comunidades portuguesas no âmbito do Orçamento Geral do Estado para 2023. Até muito breve, Paulo Pisco, e muito obrigado. E agora vamos falar de um tema completamente diferente, nada tem a ver. Ficamos aqui na região parisiense, mas concretamente na capital, na medida em que foi anunciado o encerramento de 7 liceus parisienses. Uma decisão que foi contestada pelo SEGAN CFDT, é como que diz o Sindicato dos Professores da CFDT. Quisemos saber um pouco mais com o secretário-geral do SEGAN CFDT de Paris, Olivier Daniel.
Fermeture de 7 lycées parisiens, une décision brutale et non concertée, a dénoncé le SEGAN CFDT de Paris. Monsieur Olivier Daniel, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de SEGAN de CFDT de Paris et professeur dans un lycée professionnel. Vous dénoncez une décision brutale et non concertée. Alors, il s'agit de 7 établissements parisiens, dont 5 lycées professionnels, qui vont fermer à partir de octobre 2023. Qu'est-ce qui se passe au juste ?
Oui, donc c'est plus précisément donc 4 lycées professionnels, 2 annexes de lycées professionnels et un lycée général. Voilà. Ce qui se passe, c'est que cette fermeture a été annoncée, mais de façon, comme vous l'avez dit, non concertée, ni auprès des organisations syndicales, ni auprès des collègues concernés. Donc ça, c'est très gênant, parce que c'est, comme vous dites, brutal, hein, c'est dès la rentrée suivante. Dans les établissements, il y a quand même des conseils d'administration dans lesquels on aurait pu intervenir avant la décision pour essayer de discuter avec les collègues. Et on aurait pu également, si vraiment on voulait fermer et expliquer les choses, prévoir ça sur un temps plus long pour permettre une meilleure organisation des collègues, des familles et une réflexion commune. Là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
Cela n'empêche, M. Daniel, que le 9 novembre, bon, il y a eu un conseil interacadémique de l'éducation nationale et ce sujet-là n'a pas été abordé.
Alors, ça a été abordé lors du dernier CIEN, dont je n'ai plus la date, mais qui, je crois, était après. Donc, ça a été abordé en CIEN. Donc, CIEN, c'est le Conseil interacadémique de l'éducation nationale. Voilà, c'est là que les annonces ont été faites officiellement, même si nous, on l'a su un tout petit peu avant organisation syndicale. Voilà, après, là où ça pose problème, c'est sûr, les lycées concernés, qui sont des lycées professionnels avec des publics fragiles scolairement et également économiquement, c'est-à-dire que ce sont pour la plupart, à part un, des lycées où ce qu'on appelle l'IPS, l'indicateur de positionnement social, est bas. Et beaucoup de ces élèves vont devoir être replacés dans des établissements assez loin de l'établissement d'origine et pour certains même très loin. Donc ça pose question, est-ce que tous vont suivre, est-ce qu'il n'y aura pas des abandons? Pareil pour les collègues, hein, c'est des décisions brutales parce que, bah, comme tout le monde, hein, les gens organisent leur vie familiale en fonction de leur lieu de travail. Et quand on a des sites de réimplantation qui sont à, pour certains, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de métro, ça change quand même pas mal la donne. Voilà, donc ça c'est une première chose qui va rendre les décisions difficiles. Ensuite, nous, ce qu'on craint, c'est sur l'organisation à la fois matérielle et humaine. C'est-à-dire que le rectorat a quand même des moyens très limités sur l'accompagnement des personnels. On a par exemple sur le rectorat de Paris, où quand même c'est une académie où il y a énormément de personnes qui travaillent, on a 6, ce qu'on appelle RH de proximité. Donc ça fait peu de gens. Alors bien sûr que des inspecteurs vont participer à l'organisation de ces fermetures, mais nous, quand on sait que en temps actuel, en temps normal, c'est très difficile de joindre le rectorat, c'est très difficile d'obtenir des réponses, et que la plupart des RH de proximité sont déjà débordés par leur tâche quotidienne, en fait, hein. Donc là, on se dit, mais comment vont-ils arriver à suivre correctement ces changements et l'accompagnement des collègues? Vous voyez, c'est tout un tas de questions qui se posent, même si vous voulez, peut-être que sur certains déplacements, on peut comprendre une certaine légitimité des décisions. Mais encore aurait-il fallu qu'elles soient expliquées, négociées et comprises par les personnels.
Je pose une question très simple, mais en même temps compliquée. Oui. Transfert des divisions, 780 élèves concernés. Le déplacement des équipes et des agents. Est-ce qu'il y aura de la place? Parce qu'on sait très bien qu'on a des classes surchargées. Il n'y a pas beaucoup de salles de classe. Est-ce qu'il y aura de la place pour ces 780 élèves dans les établissements où ils vont?
Oui, alors ça, bien sûr, ça a quand même été bien sûr pensé. Oui, il y aura de la place puisqu'il y a des établissements sur lesquels il y a effectivement des effectifs où on ne fait pas le plein. Donc ça, je pense que c'est pas tant le problème de place. Hein. Ça, je crois pas que ce soit ça qui va poser souci. Non, il y aura de la place, mais est-ce que tous les élèves, surtout des élèves fragiles, suivront bien? Puis bon, on sait très bien que bon, c'est pareil les collègues. Hein, les collègues travaillent en équipe, surtout en lycée professionnel. Depuis la dernière réforme, on a beaucoup de modalités d'enseignement, comme la co-intervention, qui font qu'on travaille en équipe sur des projets. Et ça va également casser les équipes pédagogiques. Les élèves sont bien sûr, comme tout le monde, aussi attachés à un lieu, à leurs enseignants. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément retrouver les mêmes enseignants là où ils vont atterrir. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes qui se posent. Et nous, ce que l'on craint également, c'est que y ait derrière tout ça des économies d'échelle sur les postes administratifs et de direction. Également d'ailleurs pour les personnels de la région, parce que on se doute bien que tous les personnels de direction touchés. Alors, on nous dit que certains seront redéployés en soutien pour être adjoints dans d'autres établissements. Mais à mon avis, ça concernera pas tous ceux des lycées concernés. Donc voilà, ça c'est aussi notre crainte également pour les postes de CPE et les postes administratifs, c'est-à-dire dans les secrétariats. On a quand même, enfin, on s'imagine bien qu'on va pas rajouter dans les lycées d'accueil forcément un nouveau poste de secrétariat. Donc on sait qu'à terme, c'est aussi des décisions qui vont engendrer des fermetures de postes sur notre académie. Hein.
Question, parce qu'en filigrane, il faut pas oublier, ça a été annoncé, la réforme de la voie professionnelle. À vous, ça, c'est une situation préoccupante, parce que vous posez la question, quel avenir pour la formation professionnelle initiale? Finalement, est-ce que c'est pas la formation professionnelle, pas seulement l'enseignement professionnel qui est en danger, en quelque sorte, si on peut élargir un peu le problème?
Oui, bien sûr. Alors, pour notre syndicat, donc le SGEN CFDT et le SGEN CFDT Paris, pour nous, il n'y a pas de lien direct entre ces fermetures et la future réforme annoncée de la voie professionnelle. Pour nous, c'est vraiment un problème local sur nos académies. Bon, il y a une baisse d'effectifs qui s'opère depuis plusieurs années sur Paris, parce que on le sait tous, hein, les loyers sont très chers, c'est difficile de se loger, et en plus depuis la pandémie, ce phénomène s'est accentué puisque un certain nombre de familles ont souhaité aller en petite ou grande couronne pour accéder soit à un jardin, soit à un balcon, enfin bref, un espace de vie plus agréable. Donc il y a cette réalité sur la future réforme de la voie professionnelle. Alors nous, on a appelé à une grève, alors je n'ai plus la date là en tête, mais là on est rentré dans le cycle des négociations, donc il y a 4 groupes de travail. On est inquiet d'un certain nombre de mesures qui sont proposées, mais on tient à être dans les groupes de travail pour justement essayer d'infléchir certaines choses. Et puis aussi, on est quand même un syndicat de proposition, de faire des propositions. Parce que pour nous, la voie professionnelle doit évoluer, surtout au niveau des formations qu'elle propose, pour avoir des formations qui soient peut-être un peu plus motivantes, mais aussi en adéquation avec le monde du travail, pour nos élèves. C'est-à-dire que les métiers évoluent, le système évolue, et il faut également que nos formations évoluent en même temps. Par contre, là où on est toujours inquiet, c'est quid des formations des collègues, de l'accompagnement vers les changements. Ça, c'est très important. Maintenant, pour nous, un des facteurs de réussite pour les jeunes, c'est la motivation. Or, actuellement, il y a des formations qui sont pas suffisamment motivantes. Donc, il faut revoir la carte des formations. Ça, on en est intimement persuadé. Mais ça doit se faire toujours dans la concertation. Et il doit y avoir le temps pour le faire, c'est-à-dire le temps pour le faire correctement. Pour nous, les fermetures, en tout cas, qui se passent sur Paris, ne sont pas directement liées à la future réforme.
Et à propos de réforme, ça avait été demandé par le président Emmanuel Macron. Ça concerne l'augmentation de 50% de la durée des périodes de formation en milieu professionnel. Il me semble, et selon un communiqué du SGEN CFDT Paris, entre-temps, il y a certaines avancées. Dans quel sens?
Oui, vous avez raison, c'est-à-dire lors de la phase de lancement des négociations, donc on a eu certaines garanties. Bon, une garantie qui pour nous et tout le monde était très importante, c'est que la voie professionnelle reste sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. Une autre garantie, ça a été que cette augmentation de 50% du temps de stage n'était plus quelque chose d'obligatoire, mais devrait entrer dans le cycle de négociation. Alors, nous, ce qu'on porte vis-à-vis de ça, c'est il est clair que nos élèves ont besoin, il y a déjà quand même un certain nombre de semaines de stage, enfin de formation en milieu professionnel, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, pendant les cycles de formation, mais pour nous, c'est très important que les élèves conservent des cours à la fois généraux et professionnels, parce que c'est la condition de leur insertion professionnelle d'une part, de leur évolution ensuite, et également pour préparer des poursuites d'études. Bon, c'est compliqué pour nos élèves de poursuivre des études, mais c'est pas en enlevant des cours que ça va faciliter les choses.
Au contraire.
Par contre, pour nous, une piste, ça serait de revenir à ce qui existait avant dans la voie professionnelle, c'est-à-dire une formation en 4 ans. Donc avant, on avait un diplôme, le BEP, puis le bac pro, donc 2 ans plus 2 ans, qui nous permettait de redonner confiance aux élèves, de vraiment avoir le temps de les accompagner sur les 2 premières années de BEP. Et nous, là, une piste, ça serait peut-être de rajouter une 4e année au bac professionnel ou une année supplémentaire pour le CAP, de façon à peut-être effectivement là une année peut-être plus de préparation ou à l'entrée dans la vie active, donc peut-être rajouter à ce moment-là de la formation en entreprise ou pour préparer une poursuite d'études. Vous voyez, mais pour nous, il faut que ce soit en plus et pas pendant ce qui existe pendant les 3 ans tel que c'est prévu aujourd'hui. Donc voilà, ça pour nous, ça nous fait peur. Bien sûr qu'il faut des stages en entreprise, c'est évidemment très important, et puis c'est souvent un facteur de motivation pour les élèves. Des élèves, moi je vois mes élèves lorsqu'ils sont en entreprise, pour beaucoup, ils sont en réussite, donc ça leur redonne une certaine confiance, parce qu'ils font quelque chose de concret. Voilà, après, à condition que l'entreprise joue correctement le jeu, qu'on ait eu le temps de bien négocier avec l'entreprise les objectifs des stages, etc. Mais bon, même si il peut y avoir certaines dérives parfois, mais d'une façon générale, ça se passe plutôt bien. Par contre, il est hors de question de réduire le temps de formation scolaire, que ce soit matière générale ou matière professionnelle, parce que vraiment, vraiment, nos élèves en auront besoin plus tard pour toute leur vie, quoi. Je veux dire, voilà, c'est très, très important, surtout ceux, en plus, qui s'arrêteront au bac professionnel, qui a un diplôme qui, quand même, normalement, voué à l'insertion. Voilà, c'est plus on leur donnera de billes au niveau culture générale pour comprendre leur futur environnement, et quand même, mieux ce sera. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est difficilement négociable, sauf à rajouter une année, quoi.
Voilà. Une dernière question, monsieur Olivier Daniel. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général du SGEN CFDT Paris. Ça concerne les contractuels. Le SGEN CFDT dit contractuel formé à la va-vite avant d'être envoyé sur le terrain, ni plus ni moins. Alors, apparemment, on annonce encore l'embauche de 150 contractuels. Vous dites que c'est un pincement sur une jambe de bois.
Effectivement, il y a de plus en plus de contractuels parce que les concours sont de moins en moins attractifs. Je sais que déjà, là, pour les futures inscriptions, on a une baisse du nombre de candidats. Et même parmi ceux qui s'inscrivent, beaucoup ne viennent pas ensuite passer le concours. Bon, c'est dû à quoi ? C'est dû à un décrochage salarial depuis de nombreuses années, un métier qui est difficile. Donc, effectivement, on a quand même un accroissement également du nombre de démissions ou de gens qui partent soit en formation, soit qui demandent des disponibilités. Donc le métier est beaucoup moins attractif, donc on a moins de gens qui se présentent au concours, et donc on fait appel aux contractuels. Et ce que vous avez dit est vrai, ces contractuels souvent sont mis face aux élèves sans formation préalable. Alors cette rentrée, il y a quand même eu des efforts qui ont été faits, notamment dans le premier degré, pour essayer d'envoyer les collègues, de les former. Ça, c'est un petit peu nouveau. Mais le problème, même dans le second degré, c'est que souvent, il y a une urgence. Il faut mettre quelqu'un face aux élèves, et des formations s'opèrent, mais elles arrivent plus tard dans l'année, donc ben voilà, ça, c'est compliqué pour les collègues. Bon, alors il y a des systèmes d'accompagnement qui sont mis en place, mais ils sont quand même insuffisants parce que c'est un vrai métier. Préparer des cours, c'est long. Le métier se complexifie parce que ben, il y a des nouvelles modalités d'enseignement, comme je vous l'ai dit, et tout ça pour des collègues qui arrivent. C'est compliqué. En plus, les jeunes, les jeunes évoluent aussi. Hein. C'est pas qu'ils évoluent en mieux ou en mal, mais c'est que, ben voilà, la société évolue et les jeunes évoluent en fonction de l'évolution de la société. Donc, ce que les nouveaux collègues avaient pu connaître comme type d'enseignement lorsqu'eux-mêmes étaient à l'école, ben, c'est plus la même façon d'enseigner, c'est plus les mêmes jeunes en face d'eux et qui n'ont pas les mêmes problématiques. Donc, tout ça, ça demande de la formation et qui effectivement est insuffisante hein, ben, par manque de moyens hein, tout simplement. Hein. Former, ça prend du temps, mais ça demande du temps et des moyens humains que malheureusement on n'a pas, puisque ou pas suffisamment, puisque on a déjà du mal à trouver suffisamment d'enseignants pour mettre face aux élèves.
Voilà, bon, donc de bon, toute façon, comme vous l'avez dit, les négociations continuent et étant oui. donné que la formation professionnelle, c'est une des priorités second mandat de M. Emmanuel Macron, espérons justement que les syndicats soient entendus. M. Olivier Daniel, je vous remercie.
Merci, et
on va accompagner tout ce qui se passe parce que l'enseignement professionnel, c'est très, 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 très important. Pour l'avenir de centaines de milliers de jeunes. Merci bien.
Tout à fait. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir.
Olivier Daniel, secrétaire général du SEGEN CFDT de Paris. É um assunto que vamos seguir a pari-passo e que provavelmente vamos voltar a ele logo a seguir ao noticiário das 13 com Céline Malaisé, presidente da Gauche Communiste, Ecologista e citoyenne do Conseil Régional de France. Mas o principal tema com ela vai ser os transportes. Transportes, como dizem os franceses, galère.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
On est de retour au passage à niveau ce dimanche 4 décembre. On reste en votre compagnie jusqu'à 14h, émission qui a rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Galère des usagers dans le transport public dans la région parisienne. Temps d'attente insupportable, transport bondé, galère quotidienne, salariés poussés à bout. Et je pourrais continuer la liste comme ça sans oublier l'augmentation du prix du pass Navigo. Pour nous parler de ces sujets-là, on a avec nous Mme Céline Malaisé. Mme Malaisé, bonjour et merci d'être en notre compagnie.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes présidente de la Gauche communiste, écologiste et citoyenne du Conseil régional Île-de-France. Alors, on pourrait dire galère, comme dirait l'autre, stop galère, non? Comme, d'ailleurs, il y a 25 collectivités qui organisent un certain nombre d'initiatives là-dessus.
Alors, maintenant, on est même stop galère. Donc, on est même quasiment à 50 collectivités qui se retrouvent dans cette démarche. Mmh. On a plus de 25 000 signataires à la pétition pour dire oui à des transports en commun de qualité, stop à la galère, stopper la privatisation, geler les prix et puis retourner à une offre à 100% afin que la qualité de service soit à nouveau au rendez-vous. Et puis on pointe la principale responsable dans cette affaire des transports en commun qui s'effondrent en Île-de-France, qui est Valérie Pécresse.
Mmh. Et ça n'empêche que Mme Pécresse a dit « bon, c'est pas ma faute, c'est la faute à l'État ».
Valérie Pécresse, c'est jamais sa faute. C'est toujours sa faute quand elle inaugure des nouvelles lignes qu'elle n'a pas lancées. Voilà, c'est la présidente des inaugurations pour les transports en commun. Mais dès que ça va mal, c'est pas sa faute. Elle essaie de se dédouaner. Alors qu'en réalité, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait des choix politiques qui ont précipité l'effondrement des transports. Le premier choix, elle l'a fait en octobre 2021. Elle a maintenu la réduction de l'offre des transports, que ce soit pour les bus, les tramways, les métros, les RER, les transiliens. Elle a maintenu cette réduction de l'offre pour faire quelques économies de bout de chandelle alors que les usagers revenaient dans les transports en commun. Mmh. Et ce qui explique en partie en fait la situation de chaos à laquelle nous sommes confrontés tous les jours quand nous prenons les transports en commun. Et la deuxième décision politique qu'elle a prise, c'est qu'elle a accéléré le processus de privatisation. Alors la privatisation n'est pas encore là, mais tout se prépare pour que ce soit privatisé. Je donne un exemple. Au 1er janvier 2025, les bus de la RATP ne seront plus des bus publics, ne seront plus des bus de la RATP si les choses vont comme elles sont prévues, mais ce seront des bus privés. Et pour ça, ça se prépare. Et ça se prépare en dégradant les conditions de travail des chauffeurs. Par exemple, depuis le 1er août, ils travaillent 59 minutes en plus et ils n'ont aucun euro supplémentaire sur leur fiche de paye à la fin de chaque mois. Et 59 minutes, c'est par jour hein, qu'ils travaillent en plus. Et donc, il y a des démissions. Et donc, ça amplifie la dégradation, ça l'accélère. Et tout ça mêlé fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et puis, une situation aussi financière qui est extrêmement préoccupante d'Île-de-France Mobilité, mais qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas due ni à la crise Covid, ni à la guerre en Ukraine, ni à la flambée des prix de l'énergie, qui est due en fait à une mauvaise gestion de Valérie Pécresse depuis 7 ans qu'elle est à la tête de la région.
Mais, Madame Alizé, vous avez dit privatisation. Transved, c'est une filiale de la SNCF. Il ne faudrait pas, peut-être pas l'oublier. Justement, déjà dans les environs de Paris, en banlieue, c'est déjà Transved qui fait ce travail-là. Et donc, et Transved, quoi, c'est une entreprise de délégation publique. C'est quoi exactement?
Alors en fait, ce ne sont plus des entreprises de droit public. Ce ne sont plus des entreprises publiques, ce sont des filiales privées d'entreprises publiques. Transdev, c'est vrai, est une filiale. Keolis est aussi une filiale de la SNCF pour elle. Cap-Île-de-France aussi est une filiale de la RATP. Et en fait, ce sont des filiales qui changent le droit des salariés et donc qui font régresser les conditions de travail des agents des transports, qui baissent les salaires, par exemple. Vous allez interroger, par exemple, des chauffeurs de Cap-Île-de-France sur le plateau de Saclay. Depuis qu'ils travaillent pour Cap-Île-de-France, ils ont perdu plusieurs centaines d'euros par mois sur leur fiche de paye. Et donc, en fait, on peut dire que c'est une ouverture à la concurrence, une mise en concurrence, mais en fait, c'est donner à des entreprises privées, enfin à des filiales de droit privé, des marchés. Et puis ces filiales de droit privé, alors pour l'instant, elles sont une entreprise où les capitaux sont majoritairement publics, mais il suffit pour certaines qu'il y ait 10 à 20% des capitaux qui passent aux mains d'une autre entreprise privée pour qu'elles deviennent des entreprises totalement privées. Voilà. Donc nous, on parle de privatisation parce que ça signifie quelque chose. Ça montre en fait que ce qui devrait être un service public est en train de devenir un service non plus aux intérêts des usagers, mais pour finalement faire de l'argent pour des entreprises privées.
Oui, ça veut dire qu'on ne sera plus usagers, mais on devient des clients, tout simplement. Alors, ça concerne justement, bon, revenons à la RATP, la SNCF, etc. Alors, il manque on parle minimum un millier de conducteurs, de bus, de métro et de train. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est les gens qui démissionnent, les gens qui ne veulent pas travailler parce que les conditions de travail sont déplorables. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, est-ce que finalement, on n'a pas profité de la Covid pour dégraisser, entre guillemets, je déteste ce terme.
Il se passe que les conditions d'exercice du métier dans les transports se sont considérablement dégradées. Et donc, le processus de... beaucoup de gens se disent qu'ils ont des horaires décalés. Ils avaient avant des statuts qui étaient des statuts de droit public, plutôt protecteurs, mais qui compensaient en fait la perte de vie de famille, des horaires en décalage avec une vie sociale facilitée. Et aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Et puis surtout, pour les chauffeurs, par exemple, de la RATP, le 1er janvier 2025, ils ne savent pas pour qui ils vont travailler, ils ne savent pas dans quelles conditions, ils ne savent pas ce sera pour combien de temps. Et donc, il y a une espèce de précarité, précarisation même de l'avenir de ce qu'est faire un métier comme chauffeur de bus. Puis aujourd'hui, les chauffeurs de bus, ils sont les premières lignes de la dégradation. Enfin, ils voient la dégradation des transports en commun au quotidien. Ils voient les usagers sont mécontents à juste titre. Eux aussi sont mécontents. Et donc, en fait, c'est un métier qui est de plus en plus difficile. Donc, il faut revaloriser. Ils demandent 300 euros en plus, les chauffeurs, 300 euros en plus par mois. Ce qui est une demande tout à fait légitime, mais pour ça, il faut de l'argent. Sauf que Pécresse, qui ne trouve pas suffisamment d'argent, par exemple, vient de demander 100 millions supplémentaires à la RATP et à la SNCF pour pouvoir financer le trou des finances. Et ces 100 millions, en fait, ça va avoir comme conséquence d'encore plus pressuriser en fait les agents des transports et donc de dégrader encore plus leurs conditions de travail. Et puis on leur demande des choses qui sont folles, hein, de ne pas respecter certaines choses qui sont de la sécurité pure et élémentaire, parce que quand on leur demande de travailler sur des plages horaires de 13 heures, alors certes avec des interruptions, mais à un moment ils savent qu'ils ne sont pas en capacité d'assurer une sécurité à 100%.
Oui, il y a la fatigue, mais entre-temps, apparemment la région a découvert 40 millions d'euros, sauf erreur, hein. Justement ça dans le cadre de Paris 24, et je parle des JO. Ça veut dire pour certaines choses il y a de l'argent, pour d'autres pas.
Ouais, c'est pas ça. C'est là de toute façon il manque d'argent sur Île-de-France Mobilité depuis longtemps parce que depuis 2015 Valérie Pécresse en fait refuse de trouver des nouvelles recettes. On sait qu'il va avoir besoin de recettes supplémentaires pour mettre en phase de fonctionnement les lignes de la 15 du Grand Paris Express, la 16 du Grand Paris Express, le prolongement de la ligne 14. Et donc, il faut ces recettes supplémentaires. Et en fait, elle a refusé de voir la réalité en face. Puis aujourd'hui, mis devant le précipice financier, elle va même jusqu'à expliquer que les transports du quotidien, que seront la ligne 15 Sud, par exemple, ou la ligne 14 qui traverse le Val-de-Marne, pourraient être mis en suspens. C'est quand même assez délirant, en fait, dans cette situation-là. Pour les JO aussi, elle dit que c'est mis en suspens. Elle dit qu'elle fait du chantage à la mise à la suspension des transports supplémentaires pour les Jeux Olympiques. Mais tout ça est complètement fou. Voilà, elle est aux abois, en fait. Elle est totalement aux abois, elle perd pied, et puis elle dit des choses qui dégraderaient encore plus, en fait, les conditions de transport.
Donc, passe Navigo à partir du mois de janvier, février, on ne sait pas trop, 90 euros, donc 75 euros et 20 centimes, on passera à 90.
Voilà, plus 20%, 15 euros supplémentaires par mois pour le Navigo, alors que les conditions de transport se dégradent.
C'est d'accord pour vous.
36% pour certains autres titres de transport, par exemple le Navigo à la semaine, hein, ce serait 36% d'augmentation au 1er janvier 2025. C'est inacceptable parce qu'il y a d'autres façons de faire. Il faut augmenter la contribution payée par les entreprises en Île-de-France qui bénéficient de ce réseau de transport en commun et qui, pour l'instant, sont égoïstes, mais réellement égoïstes. Et puis, il faut que le gouvernement, à un moment, arrête de jouer un jeu de poker manqueur avec Pécresse. Et comme Pécresse n'est pas responsable, le gouvernement devrait faire preuve d'un peu de responsabilité, de dire à Valérie Pécresse qu'il faut arrêter la privatisation, parce que ça coûte 5 milliards d'euros pour privatiser les bus, de dire à Valérie Pécresse aussi que les avances remboursables qui lui avaient consenti le gouvernement deviennent des prêts d'argent, enfin des dons d'argent, voilà, une contribution financière de l'État à la région, et puis de remettre l'usager au cœur. Voilà, aujourd'hui, l'usager doit pouvoir se transporter de manière correcte, et puis à un prix accessible à tous, parce que 90 euros, il y a plein de gens qui disent qu'ils reprendront la voiture, ce qui est fou. Voilà, parce que ça va à l'encontre de l'urgence climatique, ou bien qu'ils frauderont parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et ça, c'est inacceptable. Alors nous, ce qu'on essaie de faire avec Stop Galère, c'est de dire on a d'autres propositions. Voilà. Et celle-là, c'est pas une fatalité, c'est pas fait. Et on appelle à se réunir le 7 décembre devant le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité à Saint-Ouen à 9h pour dire que l'augmentation des types de transport, on n'en veut pas.
Alors, Madame Malaisée, une dernière question. Vous demandez également l'augmentation de la présence humaine dans les gares SNCF du premier au dernier train. Alors, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des stations qui sont fermées. Il n'y a plus d'accueil, donc il faut forcément avoir une carte de crédit. Parce que, bon, même les machines acceptent des pièces, mais pas trop. Donc, bon, c'est sans oublier la présence dans les trains. Donc, pour vous, ça, c'est essentiel aussi, cette question-là.
C'est essentiel, une question d'humanité, en fait, des transports en commun, d'avoir des hommes et des femmes derrière un guichet qui soient en capacité d'aider les usagers, d'avoir des hommes et des femmes aussi dans les gares, dans les trains également, pour assurer une sécurité, et puis le fait de se sentir en sécurité, en fait, dans les gares et dans les trains. Mais tout ça nécessite aussi de l'argent, pour que bah, y ait des embauches qui soient faites. Donc tout ça est un tout. Mais nous, ça fait des années hein, qu'on alerte sur la déshumanisation. On est allé alerter la défenseure des droits aussi pour lui dire que dans certaines gares, finalement, le service public n'est même plus accessible pour des personnes qui n'ont pas de carte bancaire, par exemple. Mmh. Justement, elle nous a répondu en nous disant que certes, les moyens de paiement finalement rompaient l'égalité d'accès au transport en commun. Ce qu'elle a dit aussi pour sur l'ensemble du pays. Mais voilà, donc nous on alerte et puis on dit finalement que ça participe de l'aggravation, de la détérioration des conditions de transport.
Voilà, merci Madame Céline Malizé. Je rappelle, présidente de la gauche communiste, écologiste et citoyenne du Conseil régional d'Île-de-France. On va suivre de près tout ça. Bon, d'autant plus, je suis un usager des transports. Je suis un usager, je ne suis pas un client et je veux y rester. Merci bien et à très bientôt, on va suivre ça. Mais déjà, le rendez-vous, c'est le 7 décembre, concertation devant le siège de mobilité Île-de-France. Merci.
Au revoir.
Merci. Bon, maintenant, on va quitter la région parisienne, on va aller au nord du Mozambique. Qui vit une situation très, 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 très grave pour les populations, et pas seulement, et d'autant plus que maintenant, c'est aussi des membres d'organisations humanitaires qui sont faits. Il y a déjà un membre de l'organisation Solidarité Internationale qui a été tué justement dans une attaque contre des civils. Ça, c'était au nord du Mozambique, à la province de Cap Delgado. Et avec nous, pour parler de cette situation-là, on a justement Monsieur Kevin Goldberg, directeur général de Solidarité Internationale. Monsieur Goldberg, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour et merci pour votre accueil dans votre émission.
Alors, on a déjà eu l'occasion de parler avec des membres de Solidarité Internationale sur le travail que vous menez au nord du Mozambique. Et à un moment donné, la situation s'était un petit peu apaisée. Ça veut dire que ça s'est aggravé à nouveau. Qu'est-ce qui se passe?
Alors écoutez, ça fait déjà quelques temps que cette province de Cabo Delgado est proie à des conflits, hein, comme vous le savez, des conflits qui mettent en jeu différentes factions armées, que ce soit des groupes dits extrémistes ou les forces de sécurité mozambicaines et leurs différents alliés. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a pu y avoir à certains moments, une décrue dans le niveau d'insécurité qui a permis à des personnes de revenir vers leur lieu d'habitation originel. Pour autant, la zone est loin d'être sûre aujourd'hui et malheureusement, comme vous l'avez mentionné, tout type de personnes peuvent être impactées, y compris notre propre organisation, puisque nous avons l'un des membres de nos équipes qui est malheureusement décédé lors d'une attaque qui a touché la voiture dans laquelle il se situait dimanche 20 novembre.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, il faut dire que l'ONG Solidarité Internationale intervient au Mozambique déjà depuis le mois de mars 2019, ça à la suite du cyclone Idai.
Tout à fait. On avait eu une première exploration, donc c'est-à-dire en gros une constatation, un diagnostic de la situation suite à ce cyclone. On n'était pas resté très longtemps puisque finalement d'autres acteurs avaient été en capacité d'amener une réponse humanitaire pour les personnes impactées. Et puis, devant l'évolution de la situation au Cabo Delgado, on avait le souhait de refaire ce diagnostic et de voir si des besoins humanitaires étaient présents. Et cette fois-là, on s'est rendu compte que malheureusement, la situation était très alarmante, avec plus de 1,3 million de personnes qui étaient touchées par la situation d'urgence et avaient des problématiques d'accès aux besoins essentiels, donc se nourrir, accéder à l'eau potable, avoir... Le minimum pour vivre avec sa famille. Et donc, on a relancé nos activités à partir de 2021 et on y intervient maintenant de façon multisectorielle, donc sur toute une série de différents aspects, en soutien à la fois aux personnes qui sont des déplacés internes, mais aussi aux communautés hôtes, c'est-à-dire les gens qui habitaient des villages dans lesquels des personnes ont dû venir suite au conflit qu'elles ont fui.
Oui, parce qu'on a parlé de quelque chose comme 800 000 personnes qui ont dû se déplacer.
Oui, alors le nombre précis est toujours difficile à connaître, mais en gros, c'est dans ces eaux-là, donc c'est tout à fait massif, et ça veut dire pour les communautés hôtes, par exemple, dans des villages qui étaient prévus pour, quelques milliers de personnes, du jour au lendemain, un besoin de doubler les capacités en eau, doubler les capacités en nourriture, Et donc c'est là que l'intervention d'acteurs de l'aide humanitaire peut venir renforcer la capacité d'accueil de ces communautés.
Et d'ailleurs, au Mozambique, je pense que vous travaillez avec l'UNICEF et pas seulement.
On travaille avec beaucoup d'acteurs. L'UNICEF est un partenaire régulier de solidarité internationale dans les interventions autour du monde. On y travaille aussi avec le Programme alimentaire mondial, le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, ou encore différents bailleurs internationaux tels que l'Union européenne ou encore le Centre de crise et de stabilité français.
Alors, si on peut élargir un petit peu, parce que au-delà du Mozambique, Syrie, Cameroun, Liban, Nigeria, en tous, il y a une trentaine de pays où on a signalé des cas de choléra. Donc, ça devient à nouveau un fléau en Afrique, et pas seulement.
Oui, alors le choléra, malheureusement, c'est une maladie dont on voit qu'elle a une résurgence qui est très liée aux crises, puisque dès que la capacité des gens à accéder à une eau potable et de qualité diminue, et bien tôt ou tard, on se retrouve avec effectivement le risque du choléra qui revient hanter les services sanitaires de ces différents pays. Donc c'est une maladie terrible hein, qui est désormais bien connue et dont on sait comment on peut lutter contre, puisque c'est une maladie qui finalement disparaît quand on est en capacité.
Oui, M. Goldberg.
Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de crises qui se cumulent, que ce soit des conflits qui mettent à mal la capacité d'entretenir les réseaux d'eau, mais aussi le changement climatique qui va augmenter le risque d'apparition du choléra dans différentes zones et dans différentes eaux stagnantes. Et donc, toutes ces crises se cumulent et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement une résurgence du choléra dans toute une série de différentes géographies. Et je dirais que tous les indicateurs sont au rouge. Et que notre ONG, par exemple, est amenée à intervenir sur le sujet, que ce soit en Haïti, au Liban ou dans les différents pays que vous avez mentionnés.
Alors justement, le Liban, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas de cas de choléra. Savoir avec la misère, avec la crise économique, parce qu'on sait qu'une bonne partie de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté.
Le Liban, c'est un pays qui fait face à un véritable effondrement, avec, comme vous l'avez mentionné, une crise économique, une hyperinflation très forte, des gens qui n'ont plus d'électricité, qui ont des difficultés à accéder à l'eau courante dans toute une partie du territoire. Et donc, concrètement, le choléra, c'est quasiment, si je peux dire, l'impact qu'on aurait pu attendre d'une dégradation très forte des conditions de vie. Et c'est étonnant de la part d'un pays comme le Liban au regard de ce qu'il a pu être par le passé, mais ça n'a plus rien d'étonnant si on regarde aujourd'hui les conditions de vie d'une partie des Libanais qui effectivement font face à une pauvreté extrême.
Est-ce que la guerre en Ukraine, ça a aggravé la situation? Parce que d'un point de vue alimentaire, on sait ce qui se passe en Afrique et pas seulement.
Oui, alors la guerre en Ukraine et ses répercussions, je peux dire, elle a un impact sur toute une série d'autres sujets qui ne sont pas directement en Ukraine, où on intervient également, mais qui impactent les autres géographies autour du monde et notamment les pays les plus fragiles. Et un de ces impacts, c'est quoi? C'est la hausse des prix des denrées alimentaires. Et donc cette hausse des prix et cette inflation généralisée, elle nous amène à être devant un risque de crise alimentaire mondiale vraiment majeure et qui nous inquiète beaucoup, notamment pour l'impact que ça aura en 2023.
Monsieur Goldberg, je rappelle, vous êtes directeur de l'organisation non gouvernementale de solidarité internationale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que, bon, déjà, c'est vous aider et les autres associations humanitaires pour que vous puissiez continuer votre travail d'aide, non?
Alors notre travail d'aide nous paraît de plus en plus essentiel au regard du nombre de personnes qui sont impactées. Les Nations Unies ont publié pas plus tard que la semaine dernière ce qu'ils appellent le Global Humanitarian Overview, donc le point de situation sur la situation humanitaire autour de la planète. Et ce que montre ce point de situation, c'est que l'année 2023 va être à nouveau une année d'explosion du nombre de personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, et que le nombre de personnes qui sont en situation de besoin d'aide humanitaire, l'explose d'année en année. C'est depuis 4-5 ans, là, on voit une courbe qui est tout à fait vertigineuse. Donc il faut que nous, acteurs humanitaires, on soit effectivement en capacité de venir répondre à ces besoins. Et pour avoir cette capacité, évidemment, on a besoin d'aide de tout type d'acteurs, donc que ce soit des bénévoles, des entreprises qui veulent venir en partenariat nous aider à faire nos métiers, des donateurs qui viennent contribuer à notre capacité budgétaire, ou encore, y compris des médias, qui mettent en avant notre travail et sensibilisent la population à ce besoin d'aide humanitaire des populations.
C'est ça qu'on essaie de faire, M. Goldberg. Donc, solidarité internationale, solidarité plurielle, et .org, c'est ça le, pour vous.
Exactement. Solidarité avec un S.org pour retrouver notre site internet et y voir effectivement le détail de nos opérations au Mozambique et dans nos 22 autres pays d'intervention.
Merci bien, bien entendu, vous pouvez compter sur nous et on va suivre également votre travail pour minorer la galère de pas mal de peuples sur cette planète. Mais enfin, merci.
Merci à vous pour votre invitation.
Merci. Et on va changer complètement de sujet. BD et immigration portugaise en France. En effet, ça sera jeudi prochain, 8 décembre, à partir de 18h30, au Consulat Général du Portugal à Paris, avec deux BD. Maria et Salazar de Robin Walter et les Portugais d'Olivier Afonso. Olivier Afonso, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Bon, alors, ces temps-ci, on s'est parlé pas mal. Comment ça s'est passé, votre participation au Festival de BD à Amador, dans les environs de Lisbonne?
Alors, c'est vrai qu'on l'attendait avec beaucoup d'impatience, parce que depuis que vous nous avez accueillis, enfin, vous m'avez accueilli à Radio Alpha, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En fait, au tout début, on se demandait si ça allait prendre, etc. Et puis surtout, la finalité, c'était quand même d'avoir une traduction portugaise et pouvoir présenter la bande dessinée au Portugal. Donc la boucle est bouclée, ça s'est super bien passé, à tel point qu'il y a eu une rupture de stock, les BD sont toutes vendues, donc il faut réimprimer. C'était très intéressant parce que quelque part, les interrogations, la curiosité étaient différentes de celles des Portugais qui vivent en France. Ça m'a surpris parce que évidemment on vit toujours dans son petit monde à soi et il y a quand même beaucoup de gens qui connaissaient rien du tout sur l'immigration des Portugais en France et qui n'avaient pas du tout de famille qui avait immigré, donc ils étaient très très curieux de découvrir tout ça et donc moi ça m'a surpris parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde connaît ça et que moi, avec ma petite histoire, ma petite BD, j'avais rien à apprendre à qui que ce soit, quoi. Et non, au Portugal, il y a encore des gens qui sont très curieux d'apprendre des choses, etc. Alors moi, je les renvoie bien sûr vers des textes et des livres beaucoup plus intelligents que le mien, parce que ça reste quand même une petite histoire personnelle. Et voilà, donc beaucoup de belles choses, beaucoup de belles rencontres, beaucoup d'émotions, voilà.
Non, c'est étonnant parce qu'en principe, il n'y a aucune famille portugaise qui n'a pas été touchée par l'immigration. Mais enfin, bon, ça, c'est le Portugal. Bon, ouais. C'est un des paradoxes du Portugal. Alors, votre livre, vous dites qu'il y a des choses, d'autres livres beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, je sais pas quoi, que le vôtre. Mais ça n'empêche que, cette rencontre à la BD Immigration portugaise fait partie d'un cycle, la langue portugaise en culture, qui est proposé dans le cadre du Centre de recherche interdisciplinaire sur le monde lusophone de l'Université Paris-Nanterre, et vous avez participé dans ce cadre de quelque chose qui s'est passé à Lisbonne, sauf erreur de ma part. Et donc, ça veut dire que votre travail... Bon, il y a les universités qui le prennent en main.
Oui, complètement, parce que en fait, ce qui est intéressant... Encore une fois, je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. Hein. Mmh. Moi, l'idée, c'était de raconter une petite histoire. Et en fin de compte, je me suis rendu compte c'est ce qu'on m'a dit, il manquait quelque chose d'accessible, en fin de compte, entre guillemets. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses très sérieuses, des livres très sérieux, et en fait, il manquait quelque chose de beaucoup plus, entre vraiment grosses guillemets, ludique. C'est-à-dire que ça puisse être facile à un outil qui puisse être facile à lire et agréable, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas lire les choses, qui ne vont pas s'intéresser parce que c'est très compliqué. Il y a des textes très compliqués. Moi, j'ai assisté à des conférences. D'ailleurs, j'étais très surpris d'être là. Et avec des gens qui connaissent le sujet sur le bout des doigts, qui parlent de choses très sérieuses et très compliquées, de la situation politique. Et c'est vrai que me retrouver au milieu de tous ces gens et être pris au sérieux... tout s'est passé quelque chose, j'ai pas forcément l'habitude parce que je travaille beaucoup dans l'univers du spectacle et donc avoir l'impression que notre livre devient quelque part un travail qui mérite à être étudié parce qu'il y a des étudiants qui vont faire des thèses sur la BD moi, je trouve ça fascinant. C'est fascinant parce que ça va au-delà du fait même de ce que ça raconte. Ça va aussi, ça parle de l'outil, de la façon dont on transmet, dont on transmet l'histoire, en fait, quelque part.
Oui, mais Olivier Afonso, vous avez un grand avantage par rapport aux universitaires, c'est que vous vivez la situation. Eux, ils ont une connaissance de la situation livresque, si je peux utiliser le terme. Donc, vous êtes un avantage par rapport à eux.
Bah, je ne sais pas si c'est un avantage ou c'est un hasard, mais oui, je comprends ce que vous dites. Mais moi, encore une fois, j'ai toujours eu cette sensation d'être un peu, entre guillemets, encore une fois, un imposteur, parce que quelque part, moi, je raconte l'histoire d'autres. J'ai juste eu le réflexe de me dire que ça serait dommage que ça se perde. Et comme moi, je fais du visuel, que je suis dans le visuel, j'ai voulu raconter ça par d'une manière visuelle. Et donc, le meilleur outil pour moi, le moins cher, le plus accessible, c'était la bande dessinée. Voilà, je pense que ça a un impact parce qu'encore une fois, qu'on soit adolescent, adulte, les images parlent, quoi. Et il n'y en a pas beaucoup de cette période.
Oui, mais c'est quand même une histoire de famille, il ne faut pas oublier, parce que, voilà, quand on parle de Mario, bon, en réalité, bon, c'est un portrait bon, romancé, en BD, en case BD, bon, de votre papa.
Oui, complètement. C'est sûr que moi, les inspirations, elles sont de ma famille, de l'entourage, d'histoires que j'ai entendues, le caractère de mon père, le caractère de ma mère. C'est sûr, c'est des choses très personnelles. C'est pour ça que ça m'amuse quand les gens viennent voir et disent « Non, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. » Je dis « Bah, peut-être pas pour vous, mais bon, si. » Et ça ressemble à mon père, ça ressemble à ma mère. Et voilà. Et j'ai eu très peu de critiques, mais celles qui reviennent sont au final plutôt amusantes, mais aussi en même temps prévisibles parce que, comme moi, j'ai été surpris de voir qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout dans leur entourage des gens issus de l'immigration en France. Eh ben, on est un peu centré sur son histoire et on a l'impression qu'elle est universelle. Mais quelque part, elle l'est. Mais c'est pas aussi précisément qu'à chacun, quoi. Enfin, je sais pas si je suis clair.
Mais... Non, mais c'est la nôtre, c'est notre histoire.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est avec la musique.
Ouais, c'est notre histoire. Et d'ailleurs, bon, votre livre, ça serait bien qu'il soit dans les bibliothèques municipales et pas seulement en France. Pourquoi? Bon, est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites dans ce sens-là ou pas? Vous ne savez pas.
Alors moi, je sais qu'en France, elle se trouve déjà dans pas mal de bibliothèques. Mmh. Ça, c'est chouette. Au Portugal, il y avait une volonté de l'éditrice, de l'éditeur. Enfin, c'est une histoire de famille. C'est une famille qui s'appelle et qui ont une maison d'édition qui s'appelle Alá dos Livros et qui avait vraiment cette volonté que ça puisse être que ça puisse intégrer plusieurs bibliothèques, etc. Mmh. etc. Je pense qu'il y a des gens qui y travaillent. Hein. Et j'ai l'impression que bah, beaucoup de gens la connaissent maintenant, donc c'est bien.
Alors, une dernière question, Olivier Afonso. Ouais. Pourquoi pas avoir l'édition en portugais ici en France? Parce que ce serait un bon moyen aussi pour les enfants d'apprendre le portugais, de connaître un peu l'histoire des anciens.
Alors, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai demandé. Et c'est vrai que c'est toujours une histoire de business. Et puis, en ce moment, comme il y a des problèmes, vous savez, avec le papier... Il est au Portugal, ils éditent au compte-gouttes, quoi, pour pas justement pour pouvoir avoir la possibilité de pas devoir faire de gaspillage, etc. Et moi, j'ai demandé justement qu'on trouve le moyen, si c'était possible, d'envoyer des BD en France. Et ce que je propose aux gens en général, c'est de pas hésiter à m'envoyer des messages, essayer de faire regrouper les informations pour les personnes qui seraient intéressées et voir comment la maison d'édition pourrait en envoyer. Parce que si on envoie une par-ci, une par-là, ça va coûter forcément très très cher. Mmh. Et donc l'idée, ça serait de voir si effectivement il y a des gens qui pourraient être intéressés pour la revente ou pour regrouper en fin de compte un envoi. Mais moi j'adorais, mais je sais qu'il y a des gens qui y travaillent, hein, qui aimeraient la faire venir et qui aimeraient la proposer.
Ben, voilà. On va suivre ça de près et on va vous rappeler. Bon, Olivier Afonso, merci. Ouais. On se donne rendez-vous, c'est à partir de 18h30, jeudi 8 septembre. Donc, les Portugais, je cherche, oui, les éditions, les arènes. les arènes BD, il faut le dire. Et vous allez être en compagnie de Robin Walter, Marie et Saint-Lazare, ni plus. Ça, c'est une histoire aussi de famille. Bon, c'est le regard en français par rapport à des immigrés ici. C'est important. Alors, Marie et Saint-Lazare, ça a été publié par les éditions Des Ronds dans l'eau. L'eau, L'O. Olivier, merci, ouais. Merci bien. Merci et à très bientôt.
À très bientôt.
E estamos já na reta final da passagem bénévole neste domingo, dia 4 de dezembro, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, às 0 horas. Não são zero, mas já lá vai, com efeito, a temporada cruzada França-Portugal já terminou, foi em finais do mês de outubro. E connosco temos Anne Lima, cofundadora das edições Chandanha. Anne Lima, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Sim, boa tarde, boa tarde a todos.
Ora, ainda estou a recordar de uma conversa que tivemos nas edições, a Rui de Tournefort, já lá voltaremos à Rui de Tournefort com aquilo que se vai passar no sábado, dia 10 de dezembro. Precisamente é que, uma vez que foi anunciada esta temporada, vocês parece que foram invadidos, no bom sentido do termo, de telefonemas, de pedidos, de conselhos, isso tudo, porque finalmente houve muita gente que, bom, necessitava descobrir a literatura portuguesa, de maneira que é verdade que vocês tiveram um trabalho imenso e bastante positivo para ajudar todos esses organismos que vos contactavam.
Sim, sim, foi, por acaso foi um bom período, muito dinâmico, em que houve muitos pedidos ligados à literatura, mas também à história, todos os livros que podem ter uma ligação com o mundo português, porque o que aconteceu é que houve várias estruturas, que sejam festivais, conjuntos de bibliotecas ou outros programas, que desejavam ou tinham previsto fazer um programa sobre Portugal e com convidados, com escritores, e às vezes depois não tinham o conteúdo, então vieram ter connosco nas edições Chandanha ou na Livraria Portuguesa do Michel Chandanha para nos pedir conselhos, para contactos e ideias, e então de um certo lado às vezes fomos assim, uns promotores de conselho e de conteúdo para esses encontros, o que foi muito, muito positivo de todas as maneiras, seja para nós, mas sobretudo para uma visibilidade da literatura portuguesa.
Ora, precisamente, foi uma ocasião igualmente para muitos autores e vossos autores, vou citar alguns, Isabela Figueiredo, Valério Romão, a Dulce Maria Cardoso, e estou a esquecer outros, precisamente que vieram muitas vezes aqui em França, fizeram festivais. O último em data foi Literatura Europeia de Cognac, com um prémio para Isabela Figueiredo. De maneira que foi uma maneira também para vocês, isso é bastante importante, que vocês têm um grande trabalho editorial, de maneira que viram compensados os vossos esforços durante esta temporada.
Sim, 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 claro, mas foi com a colaboração com esses festivais e essas bibliotecas. Por exemplo, o Festival de Cognac é um trabalho que eles realizam quase sobre um ano e portanto, já tinham uma programação portuguesa prevista e queriam convidar a Isabela Figueiredo e apresentar o livro Caderno de Memórias Coloniais, em francês, do Carnet de Mémoire Coloniale, que já tinha sido muito bem recebido pela imprensa, e ele foi apresentado ao prémio, não é? O prémio dos leitores, o que representa que 1.600 leitores das bibliotecas leram o livro e escolheram o livro da Isabela, o que é melhor quase do que ter um, digamos, de reconhecimento assim largo, do que ter um júri de 6 ou 7 pessoas, não é? Portanto, foram mesmo leitores e pessoas que foram descobrir mesmo e que se calhar nunca tinham lido literatura portuguesa.
Ora, entretanto, e a propósito de descoberta, as edições Chandanha já tiveram um certo número de livros que um deles serviu de base para uma peça de teatro, salvo o erro, mas não só, mas também eu estou a pensar, por exemplo, concretamente Le Voyage de Magellan, La Relation d'Antonio Pigafetta. Isto é um exemplo, na medida em que a RT fez um documentário sobre isto.
Ah, sim, isso é, realmente aconselho a todos e tudo o que sai na imprensa, se tiverem a possibilidade de ir ver na Arte, porque pode-se ver em replay, é quase como uma série, com muito suspense, e pode-se seguir a história do navegador português, que pôs-se ao serviço de Espanha, mas que também teve muitos problemas com os seus colegas espanhóis, mas que fez e que teve esse projeto incrível de tentar encontrar uma passagem pelo sul da América para tentar chegar às especiarias, não é? E portanto, fez-se um documentário em quatro episódios. Foi o François de Ribeirol, e com o apoio muito grande das edições e, sobretudo, do Michel Chandin, que trabalhou muito sobre esse livro.
É que intervém, não?
Ele intervém, mas também historiadores portugueses, como o José Manuel Garcia, que é ótimo, e é realmente uma... vale a pena, e aconselho realmente a todos verem esse documentário, e depois, para que vocês quiserem ir mais longe, ler a relação do Pigafetta, que foi o que testemunhou e escreveu, um dos que salvaram também dessa viagem, e que deixou esse testemunho, e que nós publicámos, claro.
Sim, Le Voyage de Magellan, 1519-1522. Eu vi os quatro episódios uns atrás dos outros, mas para aqueles que querem ver isso, e acho que é importante, fazem arte.tv e podem ter acesso precisamente a isso. Ora, aí estamos a falar de televisão, voltemos agora ao real, ao presencial. Suivez notre étoile, elle vous conduira au ciel par le détour la rue Tournefort, número 10. Ora, vai ser no dia 10 de dezembro?
É no dia 10, sábado que vem, das 14 às 21 horas, portanto, nas edições Chandin, temos uma livraria, e decidimos fazer um encontro um bocado caloroso, não é? Porque estamos também a passar períodos um bocado complicados para todos, foram assim uns anos já mesmo um bocado difíceis, e em que as pessoas reuniam-se menos, e então aqui vamos reunir-nos e ter música, leitura de textos, temos uma cerveja feita por colegas nossos, amigos nossos da Borgonha, que é uma Borgonha que tem uma ligação muito grande com Portugal, como sabemos, e que trazem essa cerveja. Também vamos poder provar vinhos e ler livros, não é? E é um convite para estarmos todos juntos e acabar o ano assim de maneira um bocado festiva, não é? Antes de cada um ir para as suas famílias.
Podemos dizer que é um convívio cultural?
É um convívio cultural, completamente, porque a ideia é que temos também um pequeno conjunto de música com um ator que vai fazer leituras, portanto, leituras, digamos, profissionais, de qualidade, e concertos de textos publicados por nós. Não é?
Sim, e as leituras vão ser feitas por Benoît Richter.
E
l'ensemble Félicitas de flautas. E um certo número de autores estarão igualmente presentes na...
Sim, temos autores, temos o Patrick de Romano, que já falou várias vezes
na Rádio Alfa.
Sim, a Adriana Brandão, mas também vamos ter o Jorge Valadas e o Vasco Martins, que participaram e que foram um dos suportes principais num livro que teve bastante sucesso este ano, que se chama Exílio, que eram testemunhos de exilados portugueses que quiseram fugir, portanto, à guerra colonial. E eles vão estar lá e vamos ler certos dos testemunhos deles.
Aliás, esse foi esse livro que lançou a temporada Portugal em Conhaque. Porque sim, eles estiveram lá com o historiador Vítor Pereira, foram eles que lançaram isso finalmente, o ano de Portugal em Conhaque.
Pois, porque Conhaque é isso, fez mesmo um trabalho que, quer dizer, apoteose, digamos, foi agora em novembro, mas começou com um trabalho sobre história e literatura portuguesa já desde quase do início do ano. E foi realmente muito bom trabalho. Eu queria também salientar uma coisa também que foi muito, uma das nossas publicações que foi muito seguida também pela temporada, que é, acho, um livro que foi agora um marco em França, mas também em Portugal, porque foi marcado um livro que fazia cá falta, que foi a nossa antologia de poesia portuguesa, La Poésie de Portugal, que é um livro bilingue e que foi também, digamos, impulsionado pela Saison Croisée, não é? Mas é um livro em português e em francês, 800 anos de poesia, quase 3 mil poemas, 280 poetas, enfim. uma obra total feita com o Max Carvalho.
Aliás, tivemos a ocasião, precisamente, quando vocês lançaram isso, de falar com ele, Max de Carvalho, que é trator, mas é um grande poeta também, esquecemos isso às vezes.
Sim.
Ana Lima, muito obrigado, e relembro, sábado, dia 10 de dezembro, a partir das 14 horas, Rue de Tournefort, número 10, Paris 5. Oh, ainda por cima...
São todos bem-vindos, claro.
Muito obrigado, Ana Lima, até muito breve, então, muito obrigado.
Até breve, obrigado.
E nós estamos a chegar ao final desta emissão, deste domingo, dia 4 de dezembro, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Obrigado ao Manuel Alexandre, ouvi dizer que já não há para aí iluminações de Natal e não sei mais o quê. Bom, André, que bom pelo sim, pelo não, por descarte de consciência, como diria o outro, não é? Ângela Silva, uma soprano que já tivemos a ocasião de entrevistar, termos aqui em direto, maneira que enviou-nos uma canção alusiva ao Natal. O Brilho do Natal, nem mais nem menos. Bem-ajam e espero bem voltar aqui na próxima semana à mesma hora.
Mais nada importa, primos, rebolamos pelo.